Le 18-20 commence avec ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 6 octobre avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par un boom des créations d'emplois en France.
Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. Un 500 000 d'emplois créés cette année dans l'Hexagone. En clair, le marché du travail est en meilleure forme qu'avant la crise sanitaire. Explication avec le service économie dans un instant. Elles ont survécu à l'enfer du 13 novembre, traumatisées à jamais. Premier témoignage aujourd'hui de victimes du Bataclan au procès des attentats de 2015. À suivre également, les SAMU sont dans la rue, ils protestent contre l'idée d'un numéro d'urgence unique. Les gens du voyage au cœur de discrimination systémique, conclusion d'un rapport de la Défenseure des droits. Les Balkans toujours à la porte de l'Union européenne, n'est pas question de leur ouvrir pour le moment, même en 2030. Et pour finir, une cyberattaque contre une des plateformes les plus en vogue aujourd'hui chez les jeunes, Twitch. Révélation sur les salaires des plus gros influenceurs.
À 18h15, un jour dans le monde, en Haïti aujourd'hui avec un film formidable qui après Cannes et Angoulême sort sur les écrans, ça s'appelle Freda, vous ferez connaissance avec des femmes dont la résilience est aussi celle de leur pays, c'est formidable, la réalisatrice est avec nous aujourd'hui à 19h20, c'est le téléphone sonne après le rapport Sauvé et les chiffres hallucinants de victimes, de prêtres prédophiles, les évêques, les prêtres ont parlé de leur effroi, de leur honte, ils ont demandé pardon, mais ça ne suffira pas, c'est toute l'église qui doit recommencer à zéro, en est-elle capable, peut-elle tout revoir? Faut-il tout remettre à plat sous peine de perdre un à un les fidèles? On attend vos témoignages et vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'économie française a donc créé des centaines de milliers d'emplois malgré la crise sanitaire.
500 000 emplois devraient être créés cette année, chiffre de l'INSEE que vous avez pu regarder de près, Delphine Simon, bonsoir.
Bonsoir.
L'économie française et le marché du travail en particulier a largement encaissé l'onde de choc de la crise du Covid.
Oui, l'emploi fait mieux que résister selon l'INSEE. Non seulement on efface ce qui a été perdu l'an passé, les 300 000 emplois qui ont disparu avec la crise, mais en plus, l'économie française a créé 200 000 emplois nets, un rebond très fort au premier semestre de cette année. Depuis le mois de juin, le nombre d'emplois créés continue de grimper, mais à un rythme moins rapide. Alors ce rebond, il est particulièrement fort dans le commerce, les loisirs, avec la réouverture des cinémas, des musées, des théâtres. Il concerne tous les âges. Sans surprise, c'est dû à l'allègement des contraintes sanitaires, mais certains secteurs dépassent le niveau d'emploi d'avant la crise grâce, si on peut dire, au Covid. Un tiers de ces emplois supplémentaires ont été créés dans le secteur tertiaire non marchand, principalement la santé. Vu les tests de dépistage, les laboratoires d'analyse médicale ont recruté comme jamais, plus 20%. Idem pour les caisses de sécurité sociale, il a fallu du personnel pour tracer les cas de Covid. Autres secteurs qui ont plus recruté, l'enseignement privé, l'accueil des jeunes enfants en crèche privée ou l'hébergement d'urgence et les EHPAD. À l'inverse, dans l'industrie en particulier, l'aéronautique, l'automobile ou l'hébergement et la restauration, on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant la crise. Au total, selon l'INSEE, le taux de chômage devrait donc diminuer nettement et s'établir à 7,6%. C'est presque un point de moins qu'il y a deux ans.
Delphine Simon du service économie de France Inter, merci. La haute autorité de santé plaide pour une dose de vaccin anti-Covid supplémentaire, mais pas pour tout le monde à ce stade, contrairement aux autorités européenne qui plaide pour une troisième dose ouverte à tous les plus de 18 ans. Les autorités françaises préfèrent encore limiter leurs recommandations. La HAS propose ainsi de concentrer les doses de vaccins sur les soignants et les personnes proches des immunodéprimés. 6 mois après leur dernière injection, au total 4 millions de personnes concernées.
Ils étaient professeurs, chauffeurs, livreurs, amateurs de rock tout simplement ou employés du Bataclan.
Tous victimes de l'effroyable tuerie du 13 novembre 2015 au Bataclan. 90 morts, des centaines de blessés. L'un après l'autre, ils sont venus raconter cette soirée à la cour d'assises spéciale pour cette 19e journée d'audience au Palais de Justice de Paris. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
Une quinzaine de ces victimes doivent être entendues d'ici ce soir et parmi les premiers à la barre, Jean-Marc qui était dans la fosse au Bataclan.
Jean-Marc, 40 ans, enseignant, barbe et cheveux courts, yeux bleus, gorge nouée. Jean-Marc écoutait le concert dans la fosse du Bataclan avec une quinzaine d'amis quand il a eu envie de sortir fumer vers 21h45 ce 13 novembre 2015. Il se fraye un chemin dans la foule qui danse. Il entend des bruits qui l'étonnent, mais il continue à se faufiler jusqu'à ce que je me retrouve nez à nez avec les trois assaillants, dit-il dans un murmure. J'ai vu les flammes sortir de leurs armes. Je les ai vus tirer en rafale en direction de tout le public. Ils ont dit cette phrase, vous remercierez votre président Hollande. Les gens se sont mis à hurler, sont tombés, ont trébuché. Je me suis retrouvée au sol, prostrée, sans possibilité de me protéger ou de fuir. Je me couvrais le visage, mais à un moment, j'ai vu un des assaillants se rapprocher de moi, j'ai vu son pied. Une personne à côté de moi a son téléphone qui s'est mis à sonner et elle a été prise pour cible. Le mien s'est mis à vibrer. J'ai continué à faire le mort jusqu'à la fin de l'attaque. Jean-Marc est resté plus d'une heure ainsi. Il n'a été évacué par la BRI qu'après 23 heures avec sur lui des lambeaux d'un des terroristes qui avait explosé sur la scène. Près de 6 ans plus tard, Jean-Marc se sent encore coupable d'être en vie et en colère contre les assaillants, mais aussi contre son pays, dit-il, la voix tremblante. Sa voix a tremblé à la barre du premier au dernier mot de son témoignage.
Sophie Parmentier avec Lucien Lefebvre pour les moyens techniques des témoignages de victimes qui doivent durer encore près d'un mois au Palais de Justice de Paris. Les premiers mots du chef de l'État sur le rapport Sauvé et les 330 000 mineurs victimes d'agressions sexuelles par des religieux ou des laïcs de l'Église catholique. Emmanuel Macron salue l'esprit de responsabilité de l'Église de France qui a décidé, dit-il, de regarder la réalité en face. Il y a un besoin de vérité, de réparation, ajoute le président, sans se prononcer sur le mode opératoire qui permettrait d'indemniser les victimes. Le pape aussi est revenu longuement sur ce rapport, exprimant sa honte à 5 reprises depuis le Vatican. François qui a appelé les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l'Église soit, je cite, une maison sûre pour tous. Des sirènes hurlantes, des gyrophares au pied du palais Bourbon cet après-midi. Un coup de pression des soignants du SAMU sur les députés qui doivent examiner demain avec les sénateurs un texte controversé sur le numéro unique d'urgence. Ce texte propose de mettre fin aux 15, aux 17 et autres 18 pour créer un numéro unique de le 112 qui rassemblerait pompiers, policiers et urgences médicales. Mais les SAMU n'en veulent pas et l'ont fait savoir. C'est le reportage à Paris d'Alice Cachaner.
Si les camions du SAMU ont activé leur sirène ce matin devant le palais Bourbon, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a urgence.
Sauver le SAMU, puisque le SAMU est en danger par des discussions qu'il y a actuellement auprès de nos parlementaires. Et sauver le SAMU, c'est aussi sauver les vies de nos concitoyens.
Pour François Braun, président du SAMU Urgence de France, la suppression du centre 15 représente un risque pour les patients.
Ça va allonger les prises en charge, ça va compliquer les prises en charge. Vous n'aurez plus de médecin au téléphone. Au mieux, c'est un secouriste qui vous dira ce qu'il faut faire. Et puis, c'est donner au ministère de l'Intérieur l'emprise totale sur les numéros d'urgence et donc sur les numéros santé.
Avec ce numéro unique d'urgence, les médecins du SAMU craignent également des dysfonctionnements en chaîne dans les hôpitaux. Agnès Ricaribon, chef du SAMU dans le Val-d'Oise.
Quand on n'a pas de compétences de formation santé, les engagements se font sur des mots-clés algorithmiques. La gêne respiratoire, ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être une vraie détresse. Quand on n'a pas la capacité, la compétence santé pour l'analyser, principe de précaution, on engage. Et ça fait des files d'ambulance comme on a vu au Canada, en Angleterre. C'est l'engorgement des urgences, c'est un risque de surmortalité.
Une vingtaine de minutes plus tard, les camions du SAMU repartent. Un préavis de grève a été déposé pour le 12 octobre.
Reportage à Paris d'Alice Cachaner. 900 millions d'euros pour les transports en commun. L'enveloppe a été confirmée officiellement par le Premier ministre aujourd'hui. Nouvelle ligne de tramway, de bus, 162 projets au total dans 95 collectivités différentes. Un vecteur d'égalité républicaine, selon Jean Castex. Christian Estrosi apporte clairement son soutien à Emmanuel Macron. S'il est candidat, je le soutiendrai sans ambiguïté, affirme le maire de Nice. Réplique immédiate d'Éric Ciotti, son rival local. Christian Estrosi a enfin tombé le masque, selon le député LR des Alpes-Maritimes, et rend cocu, je cite, ceux qui l'accompagnent depuis toujours. Autre échange musclé entre un député d'En Marche et le porte-parole des LR, Gilles Platré des Républicains, a affirmé ce matin, je cite, que dans certains quartiers, il sentait une espèce d'épuration ethnique des personnes de d'origine étrangère qui chasse petit à petit ce qu'on appelle des natifs, c'est-à-dire des gens qui sont originaires du pays. Incitation à la haine, répond le député marcheur Aurélien Taché qui a dit saisir le procureur de Paris.
Ils n'ont pas accès, ils n'ont accès à presque rien, ni eau potable, ni école, ni logement.
Les gens du voyage sont une communauté victime d'une discrimination systémique. Conclusion d'un rapport de la défenseure des droits publié aujourd'hui. Claire Edon, on l'écoute.
Ces discriminations, elles finissent par faire système, elles marginalisent de fait des groupes de personnes, elles accentuent les inégalités et renforcent des stéréotypes qui existent déjà dans la population. Évidemment, il y a toute la question qui est vraiment la plus saillante, c'est la question des problèmes de logement, hein. Le manque d'air d'accueil, la caravane qui n'est pas reconnue comme logement, ça entraîne de multiples discriminations. Le fait que cette caravane, elle soit pas reconnue comme un logement, ça veut dire des problèmes d'accès au crédit, à l'assurance, ça veut dire pas d'accès aux aides au logement. Et je trouve que ça montre de façon assez évidente l'interdépendance des droits et qu'une atteinte au droit au logement, eh bien, ça provoque derrière, à son tour, des atteintes à d'autres droits que sont le droit à l'éducation, le droit à l'accès aux soins.
La défenseure des droits Claire Redon avec Frédéric Carbone. Dans l'actualité étrangère, ce sommet informel des dirigeants européens en Slovénie, au menu des discussions, l'avenir des Balkans au sein de l'Union européenne. La Macédoine, la Serbie ou encore le Kosovo attendent depuis des années d'entrer dans l'Union. Ce ne sera même pas pour 2030. Une frustration qu'ont tenté d'apaiser les 27 et notamment le président français sur place. Les précisions en Slovénie de notre envoyé spécial Maxence Lambrec.
Il a passé ce matin une heure à essayer de faire dialoguer Serbes et Kosovars. Mais les tensions dans la région demeurent très fortes. L'état de droit, les minorités, loin d'être respectées. Et avant la présidentielle, ça n'a rien de consensuel. Prudence donc d'Emmanuel Macron.
On doit à la fois s'élargir à nos frontières et avoir une discussion avec notre voisinage. Et en même temps, nous devons profondément transformer notre fonctionnement commun parce qu'il est déjà très lourd à 27, vous le voyez bien.
Pas question de passer à 33, même en 2030. La date a été rayée du communiqué final. Les leaders des Balkans doivent se consoler avec de l'argent et les mots doux de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Nous voulons que les Balkans occidentaux soient dans l'Union européenne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Notre but, c'est l'élargissement. Le fait que nous investissions 30 milliards d'euros dans la région parle de lui-même.
30 milliards sur 6 ans pour rester le premier partenaire économique. Car attention, si l'UE n'offre pas à cette région une véritable perspective, alerte le chancelier autrichien Sébastien Kurz, la Chine, la Russie, la Turquie joueront là-bas un rôle plus important. Ils ont déjà livré par exemple plus de vaccins anti-Covid que Bruxelles. Mais la formule restera la même. Porte fermée, chéquier ouvert, cela fait 18 ans que ça dure. Ljubljana, Martin Troadec, Maxence Lambrec, France Inter.
Et ajoutons que le chancelier Sébastien Kurz, dont parlait à l'instant Maxence Lambrec, est visé depuis aujourd'hui par une enquête pour corruption. Le chancelier autrichien, soupçonné d'avoir utilisé des fonds gouvernementaux pour s'assurer une couverture médiatique favorable. Les cours du gaz qui explosent encore sur les marchés européens, jusqu'à 35% de plus ce matin, un prix 8 fois supérieur à celui d'il y a 6 mois. Une flambée historique que le président russe attribue aux erreurs des Européens qui, selon Vladimir Poutine, n'ont pas conclu suffisamment de contrats de livraison à long terme avec Moscou. Actualité européenne encore avec l'Allemagne qui fait un pas de plus vers une coalition entre sociaux-démocrates, libéraux et écologistes. Les trois partis entameront demain des discussions préliminaires. Les conservateurs de la CDU ne s'avouent pas vaincus pour autant et se disent encore prêts à mener des négociations. C'est une fuite de données sans précédent pour Twitch, un piratage qui a pris par surprise la célèbre plateforme de vidéo propriété d'Amazon. Ce matin, un immense fichier de 128 gigaoctets est apparu sur un forum américain. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
À l'intérieur de ce fichier, des milliers de fichiers de la plateforme ont été piratés et dévoilés donc sur Internet.
Oui, ces fichiers sont ultra détaillés. Ils révèlent notamment les revenus de 10 000 streamers. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est une troupe de comédiens américains qui a gagné le plus d'argent sur la plateforme ces trois dernières années. Leur chiffre d'affaires s'élève à 10 millions de dollars. Ça comprend les publicités, les abonnements et les dons envoyés par les internautes. Le hacker a aspiré un nombre incalculable de données, dont des informations cryptées sur les comptes des utilisateurs. Ce piratage de grande ampleur dévoile aussi les futurs projets de la plateforme. Alors qu'il est, aucun mot de passe n'a fuité, mais le hacker pourrait avoir d'autres données en sa possession. Il est donc conseillé ce soir de changer son mot de passe. Twitch vient de confirmer cette attaque informatique dans un message. Celui qui se dit à l'origine de son geste donne une raison. La communauté Twitch est un cloaque toxique et dégoûtant, explique-t-il. Ces derniers mois, une fronde s'est lancée contre la plateforme. Des utilisateurs critiquent le manque de mesures pour lutter contre le harcèlement.
Twitch pillé par un hacker avec Victor Vasseur. Merci, c'est à retrouver également sur franceinter.fr.
Merci beaucoup Sébastien. Tout de suite dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars, vous nous parlerez notamment de femmes à vélo en Arabie Saoudite. Ce soir, nous allons en Haïti rencontrer trois femmes incroyables. Celle du film de Jessica Genius. Le film s'appelle Freda. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne ce soir après le rapport Sauvé et ses chiffres proprement hallucinants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Église est prête à tout revoir de haut en bas? Est-ce que c'est ce qu'elle doit faire? Faut-il parler de son organisation, de certains aspects même de sa doctrine? Quel après doit-il y avoir? À vous de nous le dire avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, ça souffle près du Cap Corse.
Oui, Fabienne, nous relevons actuellement 108 km par heure au Cap Pertusato près de Bonifacio et 103 à Cagnano, mais ça va baisser en cours de soirée. Et puis demain matin, vous allez retrouver du soleil entre l'Aquitaine et la région PACA en passant par l'Occitanie. À noter la présence de bandes brouillard près de la Garonne en début de matinée. En revanche, prévoyez des nuages et de faibles pluies de la Bretagne au Pays de la Loire et jusque vers la Normandie, mais aussi de la région Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. De la grisaille aussi sous forme de brouillard, brume ou nuages bas du centre au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France. Et puis l'après-midi, avec des conditions anticycloniques, le soleil sera souvent de la partie. Seule la Bretagne et la Normandie resteront sous un ciel nuageux.
Et quelques températures pour la route, s'il vous plaît, Jean-Pierre.
Eh bien, elles seront assez proches des moyennes de saison, entre 15 et 24 degrés, avec 15 à Besançon, 16 à Lyon, comptez 18 dans la capitale, 21 à Bordeaux et Marseille, 23 à Bastia, et puis on ira jusqu'à 24 à Figari.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure après 19h.